le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Denimal, pasteur des églises évangéliques libres à Valence. Le pasteur Denimal est écrivain, auteur entre autres de la Bible pour les nuls et de la Bible pour les nullissimes, ouvrage paru aux éditions First. Éric Denimal, bonjour.
Bonjour Olivier.
Votre réflexion de dimanche porte sur la transfiguration. Mais c'est quoi au juste ce phénomène ?
Alors c'est un phénomène assez inédit qui est relaté dans les évangiles et qui se produit sur une montagne avec, au centre, Jésus qui devient lumineux. Dans l'Ancien Testament, on a un épisode qui pourrait lui ressembler. C'est lorsque Moïse descend du mont Sinaï après avoir passé 40 jours avec Dieu, lequel Dieu lui a remis, on s'en souvient, les tables de la loi. Le texte biblique dit que Moïse rayonnait comme s'il reflétait la gloire de Dieu.
Éric Denimal, Moïse se rend-il compte qu'il rayonne et qu'il est au bénéfice d'un tel rayonnement ?
Le texte de la Torah signale que tout le monde remarque le visage lumineux, irradié, rayonnant, éblouissant presque. Mais lui, Moïse, n'en a absolument pas conscience.
Cependant, quand on parle de la transfiguration, on pense plutôt à Jésus et moins à Moïse.
C'est même un épisode unique pour Jésus dans les évangiles, donc au centre de l'évangile, comme un point culminant avant la descente vers la vallée et vers la mort. Montée donc, puisque sur une montagne qui peut rappeler celle du Sinaï.
C'est sur l'évangile de Luc que vous vous arrêtez aujourd'hui, or Moïse n'est pas très loin.
En effet, la montagne est là, le rayonnement est là, Moïse est là, et même Dieu. Tout cela dans le même décor, et les parallèles sont évidents, et nous allons en parler.
C'est aux côtés du pasteur Éric Denimal que nous gravissons pas à pas la montagne de la Transfiguration.
Il y a des épisodes du Nouveau Testament que nous connaissons mieux que d'autres, et de certaines histoires, on parle tant qu'il ne semble plus possible d'en dire grand-chose. Pour le pasteur, l'exercice est parfois périlleux parce que, à vouloir trouver de nouvelles idées sur des sujets hyper connus, on risque d'oublier l'essentiel et la simplicité d'un texte, d'un thème, d'une histoire qui doit nous rejoindre et parler à tous. Aujourd'hui, nous abordons donc l'épisode de la Transfiguration de Jésus. Or, cette histoire est pleine de mystères et d'événements tellement fantastiques qu'on pourrait croire qu'ils ont été fantasmés. En fonction du programme liturgique des lectures bibliques, c'est au travers de l'évangile de Luc que nous suivons cette situation peu banale. Un jour, Jésus gravit une montagne accompagné de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Là, Jésus entre en prière lorsque soudain une grande lumière apparaît. Le visage de Jésus change, s'illumine et ses vêtements sont resplendissants. C'est déjà un fait extraordinaire. Mais voilà que les trois disciples reconnaissent auprès de leur maître deux personnages venus de la nuit des temps, Moïse et Élie. Alors ne me demandez pas comment les disciples ou les apôtres sont capables d'identifier ces personnages, je ne le sais. Ce qui est certain dans cette situation tout à fait exceptionnelle, c'est que Moïse et Élie discutent avec Jésus. Le narrateur signale que les trois hommes parlent de la mort prochaine de Jésus à Jérusalem, départ présenté comme un exode, une sortie de servitude pour saisir une promesse glorieuse. On discerne ainsi quelques échos à l'Exode. La sortie d'Égypte, toujours en mémoire, la montagne, Moïse, la nuée et naturellement la voix de Dieu. Les disciples qui, dans un premier temps, s'étaient endormis, sont éveillés par ce qui se passe et Pierre propose de figer le temps, de construire trois tentes. « Il est bon être ici », dit-il, tandis que le narrateur précise qu'il ne savait pas trop ce qu'il disait. C'est alors que les deux figures emblématiques du Premier Testament s'effacent au profit d'une nuée qui s'installe. Et du cœur de cette nuée surgit une parole divine disant « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi, écoutez-le ». Puis tout redevient normal, le silence se fait. Jésus semble être redevenu tel qu'il était avant l'épisode métamorphose et Luc précise qu'il y avait là simplement Jésus tout seul. Le récit se termine avec l'information selon laquelle les disciples se gardèrent bien de parler à quiconque de ce qui venait de se passer. Les autres évangélistes précisent que c'est une consigne de Jésus qui précise « Vous n'en parlerez pas avant ma résurrection ». Comment ne pas être à la fois émerveillé et perplexe devant une telle histoire? Émerveillé parce qu'il y a quelque chose d'irréel et beau. Perplexe parce que tout cela n'est pas très ordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais quand on lit l'Évangile et la Bible en général, il faut parfois mettre de côté la normalité et le réalisme parce que nous sommes dans un espace qui dépasse notre entendement. Sans oublier que la foi fait appel à une intelligence qui n'est plus seulement rationnelle, mais spirituelle, ce que l'on appelle parfois l'intelligence de la foi. L'histoire que je viens de résumer, que l'on trouve donc dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, est souvent intitulée « la transfiguration ». Ce terme vient du latin « transfiguratus ». Mais dans la version grecque de l'Évangile, on a le mot « métamorphosis », qui évoque plutôt l'idée d'une métamorphose. Que ce soit la métamorphose ou la transfiguration, l'épisode, s'il est fantastique, est aussi provisoire, éphémère. Le changement est de courte durée, sans doute en attendant mieux. Qu'est-ce que ce phénomène veut dire pour les disciples, pour les lecteurs de l'Évangile, pour l'Église? Pour ouvrir une piste, il faut se souvenir de ce que les évangélistes racontent juste avant cet épisode sur la montagne. Luc ouvre son récit par ces mots. 8 jours environ après ces paroles. Du coup, il vaut la peine d'aller voir que sont ces paroles prononcées quelques jours plus tôt. À ce moment-là, Jésus sort d'un moment de prière, encore un, et il interroge ses amis. « Qui dit-on que je suis ?» Finalement, Pierre lâche une déclaration de foi énorme. « Tu es le Christ de Dieu. » Autrement dit, tu es le Messie, le Sauveur, le Seigneur. 20 siècles de christianisme nous font oublier qu'une telle affirmation, c'est une véritable bombe à déflagration pour le peuple d'Israël. Le Messie espéré, annoncé, réclamé depuis des siècles par les Juifs, est enfin là. Extraordinaire. Jésus ne contredit pas cette identité, même s'il demande pour le moment que les témoins soient discrets sur la chose. Et pour Pierre, conforté dans son intuition, c'est tout simplement énorme. Aussi, lorsque dans la foulée, Jésus confie à ses disciples que le Messie de Dieu, le Christ, doit se rendre maintenant à Jérusalem pour y mourir, c'est plus qu'ils ne peuvent entendre. Le Christ de Dieu ne peut être mis à mort, encore moins par les religieux du Temple. C'est impossible. Manifestement, il y a conflit entre le plan de Dieu envisagé par Jésus et le plan de Dieu envisagé par Pierre. Or, dans cette interprétation du dessein divin, celui qui a raison, ce n'est pas le pécheur de Galilée, mais bien le Fils du Dieu vivant. N'empêche que pour Pierre, et sans doute pour les autres disciples, cette réalité est totalement inattendue et donc difficile à assimiler. Or Jésus insiste en signalant que s'il doit mourir, ceux qui le suivent risquent fort de subir le même traitement et qu'il faudra beaucoup de foi, beaucoup de force et de courage pour tenir ferme. Et puis l'entretien se termine par une parole énigmatique, encore une. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. Cette parole a fait couler beaucoup d'encre et fait naître d'étranges espoirs. Et c'est une semaine après ce débat tendu qu'intervient l'épisode de la Transfiguration. Un double choc pour le moins déstabilisant. Jésus est le Christ de Dieu et le Christ de Dieu doit mourir. Pendant une bonne semaine, les disciples vont vivre avec ces échos-là en tête. Une semaine où plus rien n'est raconté. Une semaine durant laquelle, j'imagine, les disciples s'interrogent, se demandant s'ils ont bien compris et ce qu'il faut comprendre. Tant de choses déroutantes. Que le Messie soit là, c'est impressionnant, fantastique. Qu'ils doivent mourir, c'est insupportable. Même si Jésus a glissé que 3 jours après sa mise à mort, il se réveillerait, il ressusciterait, cette information-là ne semble pas avoir eu beaucoup de prise. Plus tard, tout sera réinterprété, oui, plus tard. Mais pour le moment, le brouillard reste épais. Et voilà que le récit reprend. C'est Jésus qui se met en route, se fait accompagner de Pierre, de Jacques et de Jean. C'est le trio des intimes de Jésus, ceux qui partagent les choses les plus privilégiées, et notamment ceux qui sont témoins de résurrection opérée par le Maître. Ces 3-là vont être témoins d'une expérience unique dans l'histoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Pierre, dans une de ses épîtres, dans une de ses lettres, fera référence à cette expérience qui, sans doute, est une de celles qui ont marqué sa vie de disciple. Que Jean l'évoquera aussi très certainement dans une de ses autres épîtres. Quant à Jacques, le frère de Jean, il n'a rien écrit, mais il est le premier des disciples à mourir martyr sous les coups de Hérode. Et avec le recul, ce n'est pas banal, car entre autres, c'est pour lui que Jésus déclare « Quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu ». En effet, en étant témoin de la transfiguration, Jacques et les 2 autres disciples voient un des aspects du règne de Dieu. Le miracle, s'il est merveilleux et éphémère, n'en est pas moins l'échantillon sublime d'un attribut divin rassurant. La transfiguration, c'est une manifestation de la gloire du Fils, une gloire qui était la sienne avant sa venue sur terre et une gloire qu'il retrouvera après son incarnation et sa crucifixion. Et le Christ transfiguré, c'est l'être lumineux, flamboyant, que l'on retrouve dans les visions de Jean, dans son Apocalypse. Pour l'heure, la transfiguration est une anticipation de ce qui vient et que Jésus a annoncé, mais pas seulement lui. Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation écrite jusque-là, sont également présents parce que, en un instant, tout le dessein de Dieu se concrétise et que le final est annoncé. Mais l'ombre de la mort n'est pas dissipée face à la figure resplendissante du Christ en gloire. Il y a encore cette triste et insupportable étape, ce passage obligé. Le Christ doit mourir. C'est de cela que discutent Moïse, Élie et Jésus. Il faut que cette mort reste insupportable parce que, et tout l'Évangile le clame, Jésus ne meurt pas à cause de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Il ne meurt pas parce que ses propos dérangent le système. Jésus ne meurt pas parce qu'il y a une erreur judiciaire. Jésus ne meurt pas dans un accident de travail. Jésus donne sa vie en rançon et prend sur lui la condamnation qui était sur tout homme en rupture avec Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme l'a signalé Jean-Baptiste. Le jour où il a vu venir à lui Jésus, ce jour-là, la voix de Dieu s'était aussi fait entendre tandis que Jésus était baptisé. « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » On parle ici de ce Fils qui marche désormais vers la mort, qui n'est rien d'autre qu'un sacrifice. Comment ne pas penser à cette parole de Jésus qui résume si bien tout le sens de sa vie et de sa mort ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour comprendre le sens de la mort de Jésus, Pierre aura besoin des explications de Paul, le pharisien juif devenu théologien chrétien. Mais pour le moment, Pierre propose de monter trois tentes, l'une pour Moïse, l'une pour Élie et la troisième pour Jésus. On a parfois tendance à trouver Pierre bien naïf avec son projet d'installer un camping sur cette montagne, mais outre le fait que ce qui se passe autour de lui a de quoi déstabiliser le plus solide, il faut entrer dans la mentalité et dans la religiosité juive de l'intéressé. Dresser des tentes, ce n'est pas anodin pour un juif religieux. C'est vivre une fête importante, la fête des tentes, justement, la fête des tabernacles, Soukhot. C'est une des principales fêtes chez les juifs, et si elle commémore la sortie d'Égypte, autrement dit l'Exode, si elle fête les récoltes d'automne, elle est traditionnellement aussi une manifestation de l'attente messianique. Pierre est donc dans sa logique. Jésus est le Messie, le Christ de Dieu. C'est le moment de faire la fête et d'entrer dans la joie messianique. Mais Pierre reste encore imperméable à cette idée de la mort du Messie. Pour l'heure, Pierre ne voit que la gloire resplendissante, sans comprendre que c'est la souffrance qui permettra son explosion, son apogée éternelle. D'ailleurs, Luc, le narrateur, à la fin de l'Évangile et après la résurrection de Jésus, signalera que le Christ ouvre l'esprit de ses disciples à l'intelligence des Écritures. Du brouillard où il est encore, Pierre et ses compagnons passent à la nuée qui les enveloppe progressivement sur cette montagne. La nuée, c'est la présence et la majesté de Dieu. La nuée était sur le mont Sinaï au moment où Moïse a reçu les tables de la loi. La nuée reposait sur le tabernacle dans le désert. Elle a rempli le temple de Salomon le jour de son inauguration. Le prophète Nahum parle de la nuée comme étant la poussière des pieds de l'Éternel. Et c'est dans la nuée que Jésus s'élèvera au jour de son ascension. Dieu est donc l'invité surprise sur cette montagne pleine de surprises. De la nuée surgit une voix qui a les mêmes accents que cette voix entendue au moment du baptême de Jésus, et les propos sont presque identiques. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Jusqu'ici, les références étaient vraiment la loi et les prophètes, symbolisés par Moïse et Élie. Ces deux colonnes de l'Ancienne Alliance disparaissent maintenant dans la nuée. Une autre parole devient la référence, le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est lui qu'il faut écouter. De fait, n'est-il pas la parole de Dieu incarnée, plus que prophète qui lui n'est qu'un porte-parole ? Jésus est la parole devenue chair, c'est lui qu'il faut désormais écouter, lui seul. Cette exclusivité est peut-être accentuée par ce détail du narrateur. Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. De fait, Jésus n'est pas seul de solitude, il est seul parce qu'il est l'unique. Celui qui osera dire « Je suis le chemin véritable et vivant, nul ne vient au Père que par moi ». Les trois disciples n'ont été témoins que d'une poussière de gloire, mais cela devait les consoler, les réconforter, les dynamiser au-delà de l'itinéraire difficile par lequel Jésus passera bientôt, un chemin que les disciples auront peut-être à partager. Voilà, chers amis, ce que ce texte de Luc et ce récit de la Transfiguration m'ont fait découvrir, et c'est un honneur de partager cela avec vous. Pour terminer, cependant, je vous propose de lire enfin cette péricope, cet extrait de l'Évangile que je vous ai raconté et commenté. Cela vous permettra sans doute de réentendre, mais aussi de mieux repérer, je l'espère, quelques points soulevés tout au long de cet entretien. Thank you. 8 jours environ après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là deux hommes qui s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée surgit une voix. « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. La transfiguration, c'était le thème de la méditation d'Éric Denimal, pasteur des églises évangéliques libres à Valence. Éric Denimal, merci pour cette réflexion ce jour.
Avec plaisir.
Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Olivier Dupré. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous propose de vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au service radio de la Fédération protestante de France. Nous sommes au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.